RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui au Mali et plus particulièrement dans le centre du pays, là où se croisent communautés Peul, Dogon ou encore Bambara, le berceau de l'ex-empire du Massina, un joyau culturel et historique. Jusque-là épargné par le conflit qui embrase le nord du Mali, la région centre a sombré peu à peu dans la violence. Plusieurs centaines d'écoles sont fermées, des agents de l'État sont menacés, tués ou kidnappés. L'État a perdu le contrôle d'une bonne partie de ce territoire. Prêcheurs radicaux, terroristes, djihadistes, bandits armés, toutes ces appellations s'entremêlent. Le gouvernement a lancé un vaste plan de sécurisation, tandis que la mission de l'ONU, la MINUSMA, a déployé 200 soldats d'élite. Mais cela sera-t-il suffisant? Au centre du Mali, djihad local, désordre global. C'est un grand reportage signé Anthony Fouchard.
C'était un jour d'octobre. Il faisait chaud, comme toujours à cette période dans le centre du Mali, où les pluies et les mangues juteuses ne sont plus qu'un souvenir perdu dans la poussière. Ousmane Diarra se souvient qu'il donnait un cours de géographie à ses élèves. Le bruit et l'agitation venant de la cour de récréation ne l'a d'abord pas surpris. Une classe devait être en train de faire du sport, a-t-il pensé. Et puis les tirs ont commencé. Encore traumatisé, Ousmane a insisté pour que son nom soit modifié, que sa voix soit doublée, par peur d'être reconnu.
Ils sont venus à moto, à peu près 7 motos ce jour-là. Ils sont entrés dans l'école, ils ont fait sortir les enseignants des classes, ils tenaient les armes bien droites pour menacer les gens, surtout les enfants. Ceux qui ne connaissaient pas les armes, ils ont couru dans tous les sens. Puis ils ont tiré sur la fenêtre de la direction et puis sur le mur. Ça a même détruit le globe terrestre. Il y a eu à peu près 4 ou 5 coups de feu. C'était la panique totale. Après, ils ont dit d'aller dire au directeur que si c'est une médersa ou une école coranique, ils vont accepter l'école. Mais sinon, que jamais un enseignant ou un directeur ne doit revenir ici.
Le plus souvent, ces hommes armés, qualifiés de bandits par certains, de terroristes par d'autres, n'ont même pas besoin de tirer. Le climat de peur et de suspicion qu'ils ont instauré dans la région suffit pour faire taire les populations. Personne ne veut collaborer avec les autorités par peur des représailles. Selon un rapport de l'ONU, seulement un tiers des fonctionnaires de l'État ont été redéployés en province. À quelques kilomètres de là, dans le pays d'Ogon, se trouvent les mythiques falaises de Bandiagara, où les touristes se pressaient encore il y a quelques années. C'est devenu le cœur de la zone rouge, déconseillé à tous les Occidentaux. L'école municipale dirigée par Solo Wologem est toujours ouverte, mais pour combien de temps encore?
Nous ne passons pas la nuit parce que des années passées, on passait la nuit ici. Mais maintenant, cette année, avec l'insécurité, on a parlé partout, donc nous ne passons pas la nuit ici. On donne cours le matin et le soir, on va dormir à Bayangara. Pour notre propre sécurité, nous partons vers la ville.
À lui seul, Solo Wologem résume bien la paranoïa qui règne dans toute la zone. Car même si rien ne s'est passé ici à Bodio, les chiffres sont là. En 2017, au moins 162 attaques ont été menées contre les populations dans la région de Mopti. Des maires, des imams, des chefs de village ou des marabouts, tous suspectés de collaborer avec les autorités. 83 au moins ont été assassinés.
On ne sait pas pour le moment qu'est-ce qu'il faut dire. Sinon, on n'a jamais vu un soldat malien ici en train de dire qu'il est en train de sécuriser. La population, elle est inquiète. Les enseignants sont inquiets. On ne sait même pas où aller. Quelque part, on dit qu'ils sont vers là. Quelque part, on dit qu'ils sont de l'autre côté. Bon, on ne sait même pas sur quel pied il faut danser.
Dans ces conditions, les écoles ferment les unes après les autres. Plus de 200 sont porte-closes dans le centre du Mali. C'est plus qu'en 2012, lors de l'invasion djihadiste. Alors comment ne pas laisser ces enfants à l'abandon? L'UNICEF et des ONG partenaires tentent de trouver des solutions en ouvrant ce qu'ils appellent des espaces temporaires d'apprentissage. Nous sommes à Guidioel, un petit village du centre. Des dizaines d'enfants sont assis par terre, serrés les uns contre les autres, sous une tente couleur sable. Au tableau, un professeur avec pour seul matériel deux craies et un tableau noir. C'est la seule solution pour faire cours discrètement au centre du Mali.
Donc,
qui vient écrire dans la tableau lettre A.
Souleyman Menta est le chef du village. C'est lui qui a pris la décision de fermer l'école sous la pression des terroristes.
Ils ont fait passer un message dans le village par l'intermédiaire de l'imam. Ils demandaient à ce qu'on ferme l'école. Ils ont dit que si ça restait ouvert, ils allaient nous tuer. Tout le monde a eu peur. Alors on a fait ce qu'ils demandaient.
La vraie école, elle se trouve juste à côté. Les bâtiments sont flambant neufs, les balançoires bleues dans la cour de récréation commencent à rouiller. Cela fait 2 ans qu'elles n'ont pas été utilisées. Qui sont ces gens que personne ne se risque à nommer? Une chose est sûre, pour le directeur de l'académie de Mopti, Amadou Degueni, si tout le monde est si prudent, c'est qu'ils font partie intégrante des populations.
Ce n'est pas des attaques venues d'ailleurs. Je fus directeur de l'académie d'enseignement de Gao. Les premières crises de 2012 m'ont trouvé là-bas. On a tout perdu. Mais ça, c'était des hommes venus d'ailleurs. Ici, le verre est dans le fruit. Ceux qui s'opposent aujourd'hui, qui disent non à ce système-là, ils sont ici. Ils ne sont pas d'ailleurs.
Ce ne sont pas des simples bandits armés, mais bien des acteurs extrémistes violents avec de réelles revendications. Ils veulent introduire l'arabe dans l'enseignement, par exemple, abandonner le français, mais aussi séparer les filles et les garçons dans les classes. Réduire ces événements à du banditisme serait une grave erreur pour Aurélien Toby. Il travaille à l'Institut international de recherche sur la paix, abrégé CIPRI. Il estime que les terroristes mènent un vrai djihad local basé sur des tensions ancestrales.
Le djihad, la charia, l'implantation de ces groupes extrémistes, c'est mettre un autre nom sur quelque chose qui a toujours existé. Cette contestation des autorités s'est exprimée depuis une dizaine d'années dans le centre du Mali, avec une tentative de renégociation des droits traditionnels. Par exemple, le paiement de redevances traditionnelles pour accéder au pâturage peut être source de tensions pour les gardiens des vaches et les propriétaires des pâturages. Ces tensions-là ont toujours existé et existeront toujours. Seulement, le mode de régulation de ces tensions-là est de plus en plus contesté. Il y a des modes de régulation traditionnels, ancrés dans la coutume, et il y a des modes de régulation étatiques. Mais aucun mode de régulation n'a réussi à s'établir comme le mode légitime, unique, de régulation de ces tensions. Maintenant, ce que font les djihadistes, c'est qu'ils s'inscrivent dans ces préoccupations locales pour leur donner un autre nom, celui du djihad, celui de l'extrémiste djihadiste.
Et si les djihadistes ont pu représenter à un moment une alternative crédible, c'est parce que l'État a failli. Il a délaissé pendant des années ses populations du centre. Devant la montée des extrêmes, la riposte sécuritaire a d'abord été disproportionnée, répressive. Les rapports accusant l'armée d'exactions sont nombreux, ce qui alimente encore un fort sentiment de rancune et de défiance. De quoi faciliter encore un peu plus la propagation des discours extrémistes.
L'État du Mali a toujours été faible, dans toutes les régions du Mali. Ce rejet de l'État, il n'a pas commencé avec les djihadistes. On parle de la charia, du respect du Coran, de leur interprétation de l'islam. Mais il faut aussi comprendre que ces acteurs djihadistes ont cette interprétation de l'islam. C'est aussi porteur d'idéologie politique, d'une certaine façon. L'idéologie salafiste, c'est aussi un facteur d'égalité. Tout le monde est égal devant Dieu, tout le monde est considéré également par la loi islamique, par exemple. Et ça, c'est extrêmement séduisant par des personnes qui se sentent flouées par la tradition, par la coutume, par même la régulation de l'État qu'ils voient comme prédateur. L'idéologie salafiste, celle portée par les groupes djihadistes d'Amadou Koufa ou d'Iyad Agrali, par exemple, c'est assez émancipateur, en fait, pour plein de populations à qui on propose une certaine liberté par rapport à ces carcans traditionnels. Et ça, c'est assez important aussi de comprendre ça, que c'est pas entièrement religieux, en fait, le discours. C'est vraiment un discours politique ancré dans l'islam.
Iyad Agrali et Amadou Koufa, deux criminels devenus la hantise des autorités maliennes et de la communauté internationale. Le premier dirige le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la coalition terroriste la plus active du Sahel. Le second y a fait allégeance et attaque sans répit les soldats maliens et internationaux dans son périmètre d'influence qui s'étend jusqu'aux trois frontières, là où le Mali, le Niger et le Burkina Faso partagent une bordure commune. Cette région des trois frontières, c'est devenu la zone la plus meurtrière. Il y a quelques semaines encore, un convoi de commerçants a sauté sur une mine, 26 civils sont morts. Cette mine était probablement destinée aux soldats maliens. En 2017, ils ont été visés plus de 60 fois dans cette région centre. Mines, engins explosifs improvisés, embuscades et même attaques suicides. Les terroristes ont adopté la technique du harcèlement. Le village de Kouakourou est devenu le symbole de la résistance au centre du Mali. Les habitants ont vécu sous le joug des terroristes pendant de longs mois. En septembre 2017, ils se sont rebellés, repoussant les djihadistes de l'autre côté du fleuve. Kondo, l'ancien maire, raconte.
Bon, le 2 septembre, il y a un groupe de djihadistes qui est arrivé vers 17h. Et ils ont pris le beau milieu du village, en train de fouetter les jeunes garçons et filles. À la fin, ils étaient en train de tirer en haut. Ils ont tiré beaucoup en haut. Ça, c'était vers 18h. Après la prière du crépuscule, le village s'est réuni au niveau de la mosquée pour dire que trop, c'est trop. Vous avez eu à frapper, vous avez eu à tuer, ligoter des gens ici à Kouakourou. Et maintenant, vous dites que vous venez chercher le chef du village. Nous ne serons jamais d'accord. Nous ne pourrons jamais accepter ça. Le village décide alors que aucun individu portant une arme ne puisse rentrer dans ce village encore. Et c'est ainsi que tous les jeunes sont sortis avec des harpons, des coupes-coupes, des bâtons pour prendre tout le village.
Humiliés, les terroristes ont promis de se venger. Un petit contingent de l'armée malienne est envoyé en urgence à Kouakourou. Mais tous se retrouvent piégés comme sur une île. C'est la saison des pluies, le village est cerné par les eaux. Et les terroristes, originaires de la région, maîtrisent parfaitement l'étroit dédale de canaux. Ils imposent un blocus et emploient la tactique de la terre brûlée.
Le 3, le 4, ils sont venus chercher nos bœufs de labour qui étaient dans les pâturages. Ça, c'est un. Le 2, les périmètres aussi. Le 6, ils sont arrivés au niveau des périmètres, notamment brûler nos motopompes. Ils ont brûlé toutes ces motopompes. 18 motopompes brûlées. Nous sommes aussi dans le village, mais on ne sort pas. Nous ne sortons pas. Personne ne sort. Et personne ne rentre aussi.
Fin septembre, une nouvelle attaque terroriste contre un bateau se rendant à Kouakourou fait 5 blessés, impossible à évacuer. C'en est trop pour le gouvernement, l'armée malienne envoie un hélicoptère, exfiltre les victimes, c'est la reprise du village. Kouakourou illustre la réussite du plan de sécurisation mis en place par le gouvernement et par Sidi Alassane Touré, le gouverneur de la région de Mopti. Une stratégie qui mise sur une présence renforcée et durable, le contraire de tout ce qui avait été fait jusqu'alors.
En fait, à un moment, il y a eu souvent des actions ponctuelles où les patrouilles viennent, se cruisent pendant un certain temps, et quand les patrouilles quittent, ces touristes-là reviennent et harcèlent la population. Mais cette fois-ci, dans notre plan, le plan de sécurisation intégrée des régions du centre, nous resterons, nous ne bougerons pas. Nous serons là avec la population, et ce qui va permettre justement de rassurer la population.
Le problème, c'est que le succès de l'opération Kouakourou est difficilement exportable. Le Mali n'a pour l'instant ni les moyens humains ni matériels pour remplir cette mission de sécurisation à plus grande échelle.
Je ne demande pas ce que vous dites, que comme quoi que nous n'avons pas les moyens suffisants aujourd'hui pour sécuriser tout le monde. C'est vrai qu'il y a on a des difficultés, c'est réel. On a des défis à relever. Voilà pourquoi ce qu'on a reçu à Kouakourou, il faut qu'on le reçu ailleurs. Presque partout sur le territoire, en réalité. Donc, ces zones, effectivement, sont difficiles d'accès. Nous allons adapter notre tactique à ces zones-là. Si ces gens-là évoluent à moto, nous évoluons à moto. Si ils évoluent à pied, nous allons évoluer à pied. Si ils évoluent à dos d'âne, nous serons à dos d'âne aussi. Peut-être nous serons même sur des chevaux. Alors, donc, tout ça, parce que nous avons compris déjà la dynamique qui existe là-bas, et nous ferons face à cela.
Longtemps, le gouvernement a refusé l'aide de l'ONU au centre du pays. Devant la dégradation de la situation sécuritaire, le Mali a finalement consenti à ce que les casques bleus déploient une QRF, une force de réaction rapide, composée de 200 soldats d'élite.
Distance entre les véhicules, 50 mètres, vitesse, 40 km à l'heure, décoprés en avant.
Aujourd'hui, ils sont en patrouille sur la route de Bandiagara. Dans cette région, le danger est partout. Ces casques bleus ont échappé de peu à une embuscade il y a quelques semaines. 13 terroristes ont été capturés. À quelques kilomètres d'un petit village, à l'écart de la route, ils lancent un drone pour sécuriser leur progression.
On part dans une zone où on n'a peut-être jamais mis pied. Est-ce que le terrain est praticable? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le terrain qui peut entraver notre manœuvre? À son retour, on verra les images maintenant pour savoir comment on va s'engager sur l'objectif.
Bon, là le bip bip, ça veut dire que...
Ça veut dire que le drone est en train de retourner. Voilà, ça revient quoi. Il rentre chez nous, voilà.
Et donc il va se poser tout seul.
Ouais, tout seul, il va se poser tout seul.
La voie semble dégagée, les casques bleus progressent vers le centre du village et commencent leur opération de renseignement.
Et pour le numéro de téléphone du chef de village ?
95.
C'était quoi aujourd'hui ? Les derniers événements dans votre secteur. Les femmes, est-ce qu'ils viennent ici ?
Les femmes ?
Les femmes, les militaires maliens.
Au village ici.
Oui. Depuis quand ils ne sont pas venus ici?
Est-ce qu'il y a une
erreur?
Ils n'ont jamais arrivé ici.
Les habitants ne sont pas très loquaces. Ils n'ont pas vu les militaires maliens depuis au moins 4 ans et c'est la première fois qu'ils voient des casques bleus. Alors le capitaine Dion tente de les rassurer.
S'il y a quelque chose ici, vous appelez et dans les minutes qui suivent, nous on est là.
D'accord.
C'est toujours ça. Nous on ne va pas dire que c'est le chef de village qui a dit ceci, qui a dit cela, non.
La patrouille repart avec quelques numéros de téléphone et des promesses. Dans les faits, les 200 soldats de l'ONU ne pourront pas revenir de si tôt, sauf en cas d'urgence. Ils n'ont ni la vocation, ni la capacité de se substituer à l'État au centre. Le gouvernement, de son côté, fait des efforts. Le Premier ministre Soumelou Boubeï-Maïga, en visite à Mopti au mois de février, a annoncé une ribambelle de mesures.
Sur le plan de la sécurité alimentaire, le gouvernement va mettre à disposition pour les populations vulnérables environ 7000 tonnes de céréales. Au niveau de l'éducation, nous avons décidé d'engager une réflexion et une action pour intégrer les écoles coraniques dans le système éducatif national. Nous allons ouvrir dès octobre prochain un lycée technique agricole à Mopti et cette école ouvrira, ce lycée ouvrira dès la rentrée prochaine, en octobre prochain. Et nous allons aussi construire une maison des jeunes.
Dans le centre du Mali, la situation semble être arrivée à un tournant. Les populations osent faire face aux terroristes quand l'État prouve sa capacité à assurer leur sécurité. Les discussions entamées avec les leaders religieux et les communautés ont permis à certaines écoles de réouvrir. Et la création de la force militaire du G5 Sahel, bien qu'encore balbutiante, devrait à terme supprimer la possibilité pour les terroristes de se replier dans les zones frontalières. Mais les attaques ne diminuent pas pour autant. La pression exercée sur les forces armées maliennes non plus. L'État est en train de redéployer ses soldats dans le centre, mais ils devront être irréprochables pour ne pas donner d'arguments à Amadou Koufa et à tous les autres qui instrumentalisent l'histoire, les conflits locaux et les tensions communautaires pour faire régner la terreur. Djihad local, désordre global. Un grand reportage d'Anthony Fouchard, réalisé par Eva Moshinsky.
Mmh.